Il est 13h.
Mais tu peux dire ce que tu veux, c'est moi qui vais gagner. 13h, ma France, Wendy Bouchard, belle journée, à demain.
Ici, avec Wendy Bouchard. Ma France.
Bonjour à tous, merci d'être à l'écoute de Ma France et de votre radio ici. Nous sommes à vos côtés aujourd'hui pendant une heure pour vous informer sur les dégâts provoqués par la tempête Niels. Nous sommes en Gironde, dans l'Aude, dans l'Hérault, dans le Roussillon, dans le Gard, mais aussi en Savoie, frappés par des vigilances rouges pour crues et pour vents violents. 900 000 foyers sans électricité, démontés des eaux en sous-surveillance, respectés dans ces secteurs, s'il vous plaît, les appels à la prudence, alors que le trafic ferroviaire est très perturbé, de nombreuses routes coupées et inondées. Ma France est en édition spéciale. Nous accompagnons toutefois notre journée dédiée à l'activité industrielle dans nos territoires. Pour la deuxième année consécutive, le nombre de fermetures d'usines dépasse celui des ouvertures, mais des secteurs ont toujours le vent en poupe, notamment la défense, le luxe, les transports et l'aéronautique. Bienvenue dans Ma France jusqu'à 14h.
Ma France, édition spéciale.
Alors que la tempête Niels a particulièrement surpris par sa force, des rafales jusqu'à 160 km/h, des vents qui ont balayé le sud-ouest toute la nuit et ce matin encore avec d'importants dégâts à la clé, près de 900 000 foyers sans électricité à l'heure où je vous parle. Les dégâts sont aussi humains, avec un mort dans les Landes, un chauffeur routier dont le camion a été écrasé par la chute d'un arbre près de Dax et un blessé grave dans le Tarn-et-Garonne. Des habitants évacués dans plusieurs départements, 5 d'entre eux maintenus à midi en vigilance rouge pour crues, vents violents et avalanches, et parmi les secteurs particulièrement en alerte, la Gironde. L'ensemble des communes qui bordent la Garonne sont étroitement surveillées face à une crue qui s'annonce importante et durable. Nous sommes avec Jade Péchira, notre journaliste pour ici Gironde, qui a passé Jade la matinée à la Réole, au bord de cette Garonne, sortie de son lit.
Oui, les quais de la Réole sont inondés, le parking en bord de rivière et le stade de rugby juste à côté, les platanes ont les pieds dans l'eau, le courant charrie d'énormes troncs d'arbres. Une grosse trentaine d'habitants ont été évacués hier soir, dont une dizaine est hébergée au pensionnat du lycée situé sur les hauteurs de la commune. Trois familles avec des enfants en bas âge y ont passé la nuit après avoir mis en sécurité ce qu'elles pouvaient à la maison, dans les étages, et attrapé un sac avec quelques affaires. Maintenant, tout ce qu'elles peuvent faire, c'est croiser les doigts et espérer qu'il n'y ait pas trop de dégâts à la maison. Parmi ces réfugiés, il y a Odile. Elle est très en colère, dit-elle, contre le système Vigicru, le service public d'information sur les crues.
Parce qu'en fait, ça sert à rien. Des estimations du minimum estimé au maximum estimé, il y a 2 mètres de différence. C'est énorme pour nous. Nous, déjà, ça se joue à 500, à 1 centimètre près, ça rentre ou ça rentre pas. Imaginez 2 mètres. Donc là, aujourd'hui, soit avec les estimations qu'il y a, soit elle ne rentre pas du tout dans la maison, soit elle rentre dans toute la maison et on a plus de 30 centimètres dans la partie habitable. Vous vous rendez compte? Enfin, on peut pas. C'est hyper stressant. On vit avec la Garonne, été comme hiver, on sait qu'on va être inondé, on a cette culture de la crue, on le sait. Mais si on n'a pas les bonnes infos, c'est juste catastrophique.
Et selon la préfecture, le pic est attendu pour la nuit prochaine à 9 mètres de hauteur, mais la mairie de la Réole reste en vigilance maximale puisqu'en 2021, la crue avait justement largement dépassé les prévisions.
D'où cette surveillance étroite en effet, Jade Péchira. Merci pour ici Gironde. Les rafales ont atteint les 160 km/h dans ces secteurs avec des paysages inondés donc et des dégâts matériels. Nous sommes avec Arthur Fradin du côté de Lacano où la montée des niveaux des lacs est particulièrement surveillée là encore. Lacano, Arthur, qui est une ville exposée, très exposée en ce moment au phénomène climatique.
Oui, Lacano, où les phénomènes se conjuguent, avec d'abord en effet cette tempête Niels. Lacano frappée de plein fouet, une pointe à 157 km/h de vent enregistrée la nuit dernière à quelques kilomètres à Lesch-Cap-Ferré. Conséquence, beaucoup d'arbres sont tombés dans le secteur. J'y étais confronté en arrivant de Bordeaux ce matin avec un très grand pin qui coupait la route au niveau de Sainte-Hélène juste avant Lacano. Il fallait vraiment rouler sur le bas-côté pour passer. J'ai pu ensuite suivre des équipes de la commune en intervention avec au moins un ou deux arbres couchés sur un cabanon et une maison. Et l'enjeu pour les équipes communales, eh bien actuellement, c'est de sortir les arbres des fossés. Pourquoi ? Parce qu'à Lacano, la nappe phréatique est en surface depuis le 25 janvier. Il pleut presque sans arrêt depuis 3 semaines et les sols sont saturés. Quand vous roulez dans les hameaux de Lacano, vous avez comme dans beaucoup d'endroits en Gironde en ce moment des fossés inondés. Et si vous ajoutez des arbres tombés qui viennent, eh bien bloquer l'écoulement des eaux, eh bien ça pose un souci supplémentaire. C'est pour ça donc que la situation est compliquée. Il faut d'abord dégager les arbres tombés dans les fossés et ensuite faire face à cette montée progressive et continue des eaux qui inquiète les autorités avec les pluies encore attendues pour les jours à venir.
Merci Arthur. En Gironde, où vous vous trouvez, la Gironde, comme le Lot et Garonne, toujours en vigilance rouge, ainsi que les Pyrénées-Orientales et l'Aude, où les établissements scolaires ont été fermés pour la journée. Les transports scolaires et transports publics sont à l'arrêt. Les massifs forestiers, les parcs, les jardins sont interdits d'accès. C'est le vent, là aussi, qui préoccupe les autorités. Vigilance rouge pour vent violent, avec des rafales pouvant dépasser les 150 km/h. L'Aude qui prive 17 000 foyers d'électricité. Nous sommes à Narbonne, Benjamin Elie, à vos côtés, où les habitants n'ont pas vu une tempête aussi forte depuis 2009, Benjamin.
Oui, le vent souffle fort, très fort, depuis 4 heures du matin ici à Narbonne. Les rues sont largement désertées, mais il y a quelques commerces ouverts comme ce bar tabac. Le gérant est sidéré par ces rafales qui font tanguer des arbres.
De quoi cette tempête ? On n'a jamais eu ça. Franchement, pourtant je suis natif narbonnais, on a eu des rafales de vent, mais constantes comme ça, jamais. Et le pire, c'est les terres sont complètement remplies, gorgées d'eau.
Ce qui veut dire que les arbres peuvent tomber plus facilement.
C'est ça qui fait peur, ça fait vraiment peur là.
Vous n'êtes pas sorti du tout, vous ?
Si, je suis sorti, moi je viens de Cravite.
C'est loin ?
C'est à la sortie de Narbonne, direction Coursin.
Vous avez vu quoi sur le chemin ?
Des branchages, des poubelles au milieu de la route. Faut éviter vraiment de sortir par stricte nécessité ou obligation, mais sinon vous restez tranquille. Hein.
Restez chez vous autant que possible, c'est d'ailleurs le message de la préfecture de l'Aude. Les écoles, les parcs sont fermés, tout comme les massifs forestiers, selon Météo France. Les vents peuvent atteindre 150 km/h aujourd'hui dans le département.
Benjamin Illy dans l'Aude pour ici. Météo France qui a relevé dans la nuit des rafales de 162 km/h à Biscarrosse, 145 km/h à Pau, 136 à Mont-de-Marsan, 125 dans les rues de Toulouse, 124 km/h dans les rues de Bordeaux, comme à Auch. La vigilance rouge crue en vigueur depuis hier doit être prolongée demain en Gironde et dans le Lot et Garonne. Ce vent violent, on vous le disait, qui a provoqué de nombreuses chutes d'arbres, en particulier dans les Pyrénées-Orientales. Quelques entrées d'autoroute sont fermées dans le département et la préfecture indique que la situation reste critique jusqu'au moins 14h. Simon Colboc, nous sommes avec vous en direct justement de la cellule de crise à la préfecture de Perpignan. Et alors, où nous parlons à nos auditeurs, on peut dire, Simon, que le bilan finalement est assez miraculeux.
Oui, parce qu'effectivement, les pompiers ont réalisé 640 interventions. Il faut savoir qu'en moyenne, les pompiers des Pyrénées-Orientales réalisent une centaine d'interventions par jour. Là, depuis 6 heures du matin, 640 interventions. Les pompiers très sollicités, mais pour l'instant, pas de blessés graves dans le département des Pyrénées-Orientales. Le bilan, 5 blessés légers. Il s'agit de 5 conducteurs de poids lourds qui ont pris le volant malgré les interdictions de conduire pour tous les véhicules de plus de 7,5 tonnes. Ces poids lourds se sont couchés et les conducteurs ont été donc légèrement blessés. Mais à part ces conducteurs, il n'y a pas de blessés à l'heure où nous parlons dans les Pyrénées-Orientales, alors que les vents ont été particulièrement violents. Vous listiez les records selon les villes. Et bien ici, dans les Pyrénées-Orientales, le vent a soufflé jusqu'à 180 km/h, une rafale enregistrée au sud de Perpignan, 148 km/h même en centre-ville de Perpignan. On ne compte plus évidemment les toitures qui se sont envolées, les arbres qui sont tombés, et puis l'image qu'on retiendra nous ici dans le département, ce sont les poteaux du stade Aimé Giral. Le stade Aimé Giral, c'est la cathédrale des Catalans, c'est le stade de rugby de l'USAP, oui, l'équipe de Perpignan, oui. Et les poteaux sont en partie tombés. Alors l'USAP doit en principe affronter l'équipe de Pau après-demain, samedi. Pour l'instant, le match est maintenu au stade Aimé Giral. Normalement, de nouveaux poteaux doivent être réparés en principe dans les prochaines heures ou demain.
Parmi les images que vous évoquiez de ces dégâts matériels ou de ces dégâts naturels, on va revenir avec vous, Simon Colboc, sur les très nombreuses chutes d'arbres sur les routes des Pyrénées-Orientales.
Effectivement, de très très nombreuses chutes d'arbres dans notre département ici, des centaines, c'est impossible de pour l'instant de toutes les compter, ces chutes d'arbres, mais on n'a pas tellement l'habitude de ça dans le département, parce qu'on est un département exposé au vent, à la tramontane très forte qui souffle parfois ici, mais il se trouve que ces dernières semaines, ces derniers mois, il a plu très fortement sur les Pyrénées-Orientales. On a eu deux épisodes méditerranéens particulièrement soutenus, du coup les sols sont particulièrement meubles, sont souples. souffle et certains arbres qui d'habitude résistent aux rafales, eh bien là se sont couchés. Des images d'arbres sur la route, il y en a beaucoup, des arbres qui sont tombés, parfois même sur des maisons. Ça a été le cas au sud de Perpignan, une maison littéralement éventrée par un arbre, mais heureusement pas de blessés. On a aussi parmi les images ici une toiture quasi entière d'une grande cave coopérative au sud de Perpignan, dont la toiture s'est littéralement envolée aussi. Mais effectivement, ça va prendre beaucoup de temps avant de rouvrir l'ensemble des routes à cause de ces nombreuses chutes d'arbres.
Merci Simon Colboc pour ici Roussillon. Dans le Gard, la circulation est aussi très compliquée sur les autoroutes A9 avec 1400 poids lourds qui sont bloqués entre Remoulin et Marguerite, 800 autres véhicules sur l'A54 entre Garon et Nîmes. Ce sont des camions qui sont forcés de rester à l'arrêt en raison de la vigilance orange vent violent sur le département de l'Hérault. Et vous retrouvez d'ailleurs la liste des routes coupées en Dordogne, en Charente, en Charente-Maritime, en Gironde, au Pays Basque et dans les Landes sur les pages ici.fr de votre radio locale. Notre site évolue en ligne sur ces conditions en direct alors que, et on va y revenir, 900 000 foyers sont privés d'électricité à l'heure où nous vous parlons. 5 départements toujours en vigilance rouge. Nous parlions des routes. On va faire un point sur vos conditions de circulation, cette fois ferroviaire. Bonjour Benjamin Mathieu.
Bonjour Wendy.
Les perturbations, elles sont nombreuses et sont surprises et concentré d'abord dans le sud-ouest.
Le trafic des TER avec toutes ces chutes d'arbres fortement perturbées, de nombreux trains supprimés en gare de Bordeaux ou Pau. Aucun train ne circule ce matin dans les gares de Bayonne, Biarritz, Hendaye. Le trafic des trams qui est également perturbé à Bordeaux. En Occitanie, mise à jour, le trafic ferroviaire est totalement interrompu sur l'ensemble du territoire Midi-Pyrénées jusqu'à nouvel ordre, indique la SNCF. La circulation des trains qui est maintenue sur 3 lignes seulement, Axe-les-Thermes, La Tour de Carole, Cap de Nac, Rodez et Nîmes-Sept. Aucune solution de substitution n'est proposée.
Bon, les autres régions sont également touchées, Benjamin.
Oui, le trafic est perturbé en Centre-Val de Loire, en Pays de la Loire, dans la région Bourgogne-Franche-Comté et en Auvergne, avec des lignes à l'arrêt et évidemment des retards. La circulation interrompue sur la ligne Aurillac-Brive, Clermont-Ferrand-Nîmes, Clermont-Ferrand-Béziers, des inondations qui perturbent la circulation des trains sur la ligne Laval-Le Mans. Le trafic est interrompu dans le sens Les Sables-La Roche et sur la ligne Nantes-Les Sables-d'Olonne. Et puis dans le Hauts-de-France, aucun train ne circule entre Paris et Beauvais en raison d'un obstacle sur les voies. Vous le comprenez, il vaut mieux reporter si vous avez des déplacements à faire.
Alors si vous comptez vous rendre au départ de Paris d'ailleurs vers le sud-ouest, on reporte si on le peut.
Également, effectivement, la gare Montparnasse, tous les trains en direction de Dax, Bayonne, Biarritz s'arrêtent et Hendaye s'arrêtent obligatoirement à Bordeaux. Et puis prévoyez des retards également sur les axes TGV Marseille-Toulouse et Montpellier-Perpignan. On nous annonce des parcours avec des suppressions ou des limitations de vitesse, donc dans tous les cas, ça va être compliqué aujourd'hui dans les gares.
On refait un petit point avec vous sur les conditions de circulation, le trafic ferroviaire notamment, et de points de situation dans quelques instants au cœur de cette édition spéciale. Ici, jusqu'à 14h, 5 départements en vigilance rouge, crue, avalanche ou vent en raison du passage de la tempête Nils, l'Aude. Les Pyrénées-Orientales sont en vigilance rouge pour le vent. La Gironde et le Lot-et-Garonne sont étroitement surveillés et en vigilance rouge pour les crues. Nous allons parler de la Savoie dans quelques instants, en vigilance rouge avalanche. Le temps de vous redire que la situation dans 900 000 foyers est complexe. 900 000 foyers privés d'électricité. Les agents d'Enedis sont à pied d'œuvre face à de sacrés dégâts. Là encore, l'entreprise a annoncé ce matin mobiliser 3000 techniciens pour établir la situation. Les régions les plus touchées sont la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie. 128 000 foyers sans électricité en Gironde, 109 000 dans les Landes, mais aussi en Dordogne, dans les Pyrénées-Atlantiques, la Charente maritime et les Hautes-Pyrénées. Du côté des massifs, on n'oublie pas la situation en Savoie, en vigilance rouge à avalanche depuis 6 heures, donc ce matin. Météo France nous informe, et informe en particulier les habitants et les touristes, d'une situation avalancheuse grave et remarquable sur la Haute-Tarentaise et près du Mont-Blanc. Les sports de glisse comme les raquettes ou la randonnée à pied sont à éviter, puisque des coulées parfois de grande ampleur pourraient se déclencher de manière spontanée. Écoutez la préfète de la Savoie, Vanina Nicoli, qui alerte sur ici, Pays de Savoie.
Toutes les communes qui sont concernées par les secteurs les plus en risque ont pris des mesures, donc que ce soit à Val d'Isère, à Tignes, à Villa-Roger, on a des parties ou la totalité de certains domaines skiables qui sont fermés, des mesures d'interdiction de certaines voies de circulation, et si la situation le nécessitait, au cours de la journée, les maires pourraient être amenés à demander à des personnes de rester, par exemple, confinées dans certains secteurs, en fonction du risque pour les habitations et pour les personnes.
Vanina Nicoli, préfète direct de la Savoie sur ICI, Pays de Savoie. Emma Joly, vous êtes l'une de nos journalistes mobilisées au cœur de ces conditions climatiques complexes. Vous essayez, vous, de gagner la station de la Plagne et c'est particulièrement ardu, compliqué, Emma.
Oui, tout à fait, effectivement. J'essaye de rejoindre la Plagne, donc on peut y accéder. Il n'y a pas d'interdiction. En revanche, dès le début de la montée dans la vallée, c'est déjà très compliqué à cause de la pluie et du brouillard. Hein. On ne voit pas à 10 mètres devant soi, donc ça rend l'ascension très difficile. Et puis, passer quelques épingles. Et ben cette fois, c'est la neige qui m'a arrêtée. Les voitures patinent. Et donc, du coup, je n'ai pas pu aller plus loin et me rendre donc à la Plagne centre, à la Plagne 1800, la route était trop glissante. En redescendant, je me suis arrêtée sur une aire de chaînage où j'ai croisé Alex, hein, qui est venu du Rhône. Lui, il était en train d'enlever ses chaînes. Il m'a expliqué que justement, on ne pouvait pas monter sans les chaînes, que c'était trop compliqué. Il m'a expliqué qu'il était venu passer quelques jours avec ses enfants au ski, que ses enfants étaient toujours là-haut et malheureusement, ils ne pourront pas skier puisque la station est entièrement fermé à cause de ce risque avalanche de 5 sur 5. Alors bon, il m'a dit, c'est pas grave, ils feront des jeux de société. Il faut savoir aussi que c'est une quinzaine de stations en Savoie qui ont partiellement fermé leur piste à cause de ce risque avalanche. Et la préfecture rappelle et prévient, il faut éviter les activités en montagne et surtout pas de ski hors piste.
Voilà, on vous écoute et on suit les conseils de précaution, de vigilance absolue des autorités. Emma Joly pour ICI Pays de Savoie, au cœur de cette édition spéciale autour du passage de la tempête Niels, un mort dans les Landes, 900 000 foyers privés d'électricité, 5 départements qui restent en vigilance rouge, alors que 22 départements sont en alerte orange pour crue, du Morbihan à la Vendée au Maine-et-Loire, de la Corrèze au Tarn et aux Hautes-Pyrénées. On retrouve toutes nos informations en direct sur les pages locales ici.fr de votre radio de proximité. Il est 13h16, on revient dans quelques instants sur cette situation complexe sur le front météo, mais je n'oublie pas notre journée spéciale industrie.
Ici, avec Wendy Bouchard, Ma France.
Et dans Ma France, on va accompagner cette journée spéciale industrie sur ICI avec un état des lieux autour des entreprises qui fonctionnent, des secteurs qui recrutent, des fermetures d'usines qui demeurent hélas plus nombreuses en 2025 encore que les ouvertures. La défense, le luxe, les data centers, les usines de recyclage permettent, cela dit, à nos territoires de rester dynamiques. Nos confrères du magazine Usine Nouvelle nous rejoignent pour nous éclairer sur cette réalité industrielle française. Nos invités vont aussi témoigner au cœur de leur région, de leur territoire notamment, de cette atonie ou de cette activité industrielle. Et Géraldine Oudaillé pour notre radio ICI. Bonjour Géraldine.
Bonjour.
Vous avez regardé les cartes publiées par nos confrères d'Usine Nouvelle pour ICI, dont notre radio et son site dédié vous communiquent depuis ce matin les résultats. La carte des sites industriels ouverts ou fermés en France l'an passé. Le bilan est à nouveau mitigé, Géraldine, car pour la deuxième année consécutive, les fermetures d'usines ont été plus nombreuses que les ouvertures.
Oui, c'est ça. On compte 124 sites fermés ou menacés, 86 ouvertures. 10 000 emplois sont concernés sur tout le territoire. Les secteurs de la chimie, de l'automobile ou de la métallurgie confirment leurs difficultés. Mais l'agroalimentaire, ça c'est nouveau, est aussi concerné avec 16 usines touchées. Parmi les symboles, la fermeture des sirops Tesser en Isère ou Blédina qui fabriquait des céréales bébés à Villefranche-sur-Saône dans le Rhône. Mais il faut le dire aussi, certains secteurs se portent bien. La défense et l'aéronautique avec Airbus, Thales dont on va reparler, ou Dassault. Les énergies, le nucléaire, le renouvelable ou encore le recyclage. C'est aussi le cas du luxe avec LVMH ou Hermès. Et puis, tout ce qui dépend de l'économie numérique va continuer à se développer. Les centres logistiques pour trier nos colis commandés sur Internet, les data centers qui s'implantent de plus en plus sur le territoire. L'intelligence artificielle va révolutionner l'économie. Des emplois vont certes être détruits, mais beaucoup d'autres vont être créés avec des nouveaux métiers qui n'existent pas encore aujourd'hui.
Et vous retrouvez sur ici.fr la carte des fermetures, des ouvertures d'usine, un bilan définitif pour 2025 dont on parle notamment, merci Géraldine, avec vous Emmanuel Duteil qui est directeur de la rédaction de ce magazine Usine Nouvelle, notre partenaire. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Wendy.
Il dit quoi de l'activité industrielle en France, ce bilan consolidé pour 2025?
Alors il dit, il vient confirmer une tendance que l'on a vue à partir de la dissolution. Donc là il faut remonter en 2024, hein, parce que les mois politiques paraissent des années en ce moment, mais donc il faut remonter en juin 2024 et à partir de là on a vu une inversion inversion de la tendance. C'est-à-dire que jusque-là, on ouvrait plus d'usines que l'on en fermait. Mm-hmm. Ça a été très très net sur la fin de l'année 2024. Et l'année 2025 vient confirmer malheureusement cet état de fait qu'on referme à nouveau plus d'usines que l'on en ouvre. Ça explique le fait que plusieurs secteurs industriels sont en grande difficulté. Géraldine le disait très bien, mais c'est vrai qu'on pourrait se dire l'automobile, pourquoi donc ? On n'arrête pas de dire que Renault n'a jamais autant vendu de R5 qu'en ce moment. Le problème, ce sont tous les fournisseurs qui sont avant, notamment pour ceux qui n'ont pas réussi à passer à l'électrique, pour ceux qui ne bénéficient pas d'assez de commandes, parce que la voiture électrique ne progresse pas aussi vite que ce qu'on avait pu penser. Il y a un autre secteur qu'on voit moins quand dans notre vie de tous les jours, c'est véritablement la chimie, où là, on a perdu des écosystèmes extrêmement importants. L'une des raisons principales, c'est le coût de l'énergie pour cette filière, parce que là aussi, on aurait tendance à l'oublier, mais entre la guerre en Ukraine et le Covid, on a connu des chocs énergétiques extrêmement importants, et ça a donc emporté des secteurs. Et du côté de la chimie, on parle vraiment en dizaines de fermetures de sites. Géraldine citait également l'agroalimentaire, et c'est vrai que ça, c'est assez nouveau, et là encore, ça s'explique malheureusement assez simplement. C'est un secteur qui fait très très peu de marge, l'agroalimentaire. Donc dès que vous avez des secousses, que ce soit des secousses sur l'incertitude politique, que ce soit des secousses sur les prix de l'énergie là aussi, des entreprises qui ne gagnaient pas beaucoup d'argent à la fin de l'année se retrouvent en difficulté. Et puis on a des symboles industriels, c'est vrai que Brandt, mais on pourrait également citer en ce début d'année 26, Arc, ce sont les verres, c'est un verrier, beaucoup en ont là aussi à la maison. C'est l'une des plus grandes usines de France, c'est encore 3500 collaborateurs dans un territoire où il n'y a pas obligatoirement énormément d'emplois autour. Donc voilà, on voit des symboles, mais comme le faisait aussi très bien Géraldine, c'est important de le nuancer, parce que paradoxalement, on a plus d'écart entre les fermetures et les ouvertures que l'année dernière, mais on a pourtant plus d'ouvertures. Donc ça veut dire que ça accélère un peu des deux côtés. Et là, ce qui porte bien, c'est tout ce qui va être autour de l'énergie, le nucléaire, l'énergie renouvelable, la défense. Je crois qu'on va en parler dans un instant avec l'un de vos invités. Mais la défense, c'est un petit secteur en France en ouverture d'usines et même en emploi. C'est important dans le tissu, mais c'est un petit secteur, donc ça ne va pas venir compenser par exemple l'automobile. Mais vous avez l'aéronautique qui se porte très bien. Il y a par exemple on est à la limite de l'aéronautique et de la défense, mais il y avait une ouverture très symbolique en Île-de-France d'une usine d'assaut pour le Rafale, était très très importante dans le palmarès. Donc voilà, ce que ça dit, c'est que l'industrie est moins forte aujourd'hui en France. Elle est très attaquée et donc on devrait tangenter la ligne des 10% du PIB pour l'industrie.
D'accord.
Ce qui montre qu'on on s'enfonce encore aujourd'hui un petit peu plus.
Emmanuel Dutheil, directeur de la rédaction, notre partenaire qui publie également sur le site du magazine ces données et cette carte avec 10 000 emplois donc en danger dans 124 usines menacées parmi les défaillances les plus marquantes. Et nous le rappelions, vous citiez Tesser, Tetra Pak, Brandt, contre 86 ouvertures. Et sur cette carte, on trouve aussi les liquidations, les redressements d'entreprises. On va en parler et je salue nos invités en studio à nos côtés. Clément de Villepin, directeur des ressources humaines du groupe Thales France. Bonjour monsieur.
Bonjour.
On verra en effet avec vous que le secteur de la défense a le vent en poupe. Thales qui annonce 3300 nouveaux emplois en France cette année. Et puisque nous sommes la radio des territoires, je vous propose qu'on se retrouve autour de la région Auvergne-Rhône-Alpes avec son président Fabrice Pannekoek. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Qui est une des régions très concernées par à la fois l'activité industrielle et par les difficultés de cette activité industrielle. Vous êtes au cœur finalement de ces paradoxes. Vous avez à la fois une dynamique très solide d'implantation chez vous dans votre région et puis des fermetures et des défaillances d'entreprises liées à ces secteurs en crise, monsieur le président.
Oui, effectivement, mais on est d'abord la première région industrielle de France. Et en réalité, avec ce statut qui nous oblige quelque part, il faut évidemment avoir un constat global en toute objectivité. Avec des ouvertures d'abord, et vous avez raison de le rappeler, puisque nous sommes la région dans laquelle on relocalise l'industrie, puisque la moitié des ouvertures se font sur notre territoire. Pour le reste, à l'évidence, nous sommes, comme d'autres, dans un moment où il y a de la turbulence. Il faut la regarder en toute objectivité. Ce que j'en retiens, en revanche, c'est que nous avons un solde net qui est positif, à la fois sur les ouvertures, c'est le cas de ce qui a été qualifié par le baromètre industriel de l'État, où notamment au premier semestre 2025, on fait apparaître une balance positive de création de sites qui est de 4, et puis surtout sur les emplois. puisque là encore, si je regarde l'année 2025, c'est en réalité plus de 4000 emplois que nous avons en solde positif. Alors évidemment, une grande attention sur ceux qui souffrent ou ceux qui perdent l'emploi, oui, avec des sites industriels qui ferment, oui, mais malgré tout, en toute objectivité, une création qui reste positive avec des sites qui ouvrent. Quand on est avec le statut qui est le nôtre de cette industrie qui est fortement concentrée dans nos territoires, de toute évidence, quand il y a une turbulence nationale, elle vient aussi impacter notre
bien
territoire
sûr
en proportion.
Bien sûr, Emmanuel Dutheil évoquait parmi les secteurs à la peine la chimie, la vallée de la chimie dans votre région Rhône-Alpes. Quelles que soient les politiques d'aide et de soutien industriel que vous mettez en avant avec la région, vous avez du mal pour le coup à conjurer cette réalité ou cette fatalité, Fabrice Pagnot.
J'irai un peu plus loin. En réalité, je vais vous prendre un exemple qui est le site de Vancorex, dont nous avons beaucoup parlé au plan national. Ce site aujourd'hui qui effectivement est rentré en difficulté, il y a des projets pour qu'il y ait des renaissances, mmh, sur le plan de la chimie, justement. Et on sait, puisqu'on parle de la chimie, l'importance d'avoir des chaînes qui soient globales, parce qu'il y a en incidence de nombreux acteurs qui sont liés à chacun des sites. Tout ça forme un écosystème autour de la chimie. On est encore avec de beaux projets qui existent et qui vont continuer de se mettre en œuvre. Je le prends à l'exemple de Vancorex.
Oui, vous mettez aussi en avant des politiques, parlons du positif, aussi du soutien que vous apportez justement à ces activités industrielles si importantes et pourvoyeuses d'emploi dans votre région. Le pacte relocalisation qui accompagne les entreprises qui souhaitent rapatrier leur production. Un soutien massif à un certain nombre de filières aussi qui sont porteuses. Fabrice Pagnot.
Alors, on a d'abord, il faut regarder en objectivité encore, d'abord des savoir-faire qui sont implantés historiquement sur nos territoires, une position géographique qui est stratégique et une histoire industrielle qui est profonde. Mais il y a aussi la manière avec laquelle on prépare l'avenir. Et cette dimension-là est absolument essentielle, être dans le moment de l'anticipation. Vous savez, dans notre région, à l'époque présidée par Laurent Wauquiez en 2016, il y a tout de suite cette volonté d'être aux avant-postes, de pouvoir accompagner le moment industriel et l'économie. Ça passe par plusieurs paramètres. D'abord, il faut avoir un discours très clair. Nous ne sommes pas, en Auvergne-Rhône-Alpes, des décroissants. Et au contraire, plutôt tournés vers cette création de valeur, vers l'emploi, vers la dimension du travail. Et ensuite, de manière très pratique, il y a quelques dimensions essentielles. Le foncier, mobiliser du foncier, s'intéresser à l'avenir du foncier, c'est ouvrir la place à l'industriel. La formation, quels seront les travailleurs de demain? Quelles sont les compétences qui sont attendues? Nous l'accompagnons. L'énergie, on est la grande région de l'énergie, à la fois sur le nucléaire et sur l'hydroélectricité. Il faut naturellement continuer de le faire. Le sujet de la fiscalité, il n'est pas neutre. Quand notre région ne lève pas le versement mobilité, c'est 100 millions d'euros que nous n'allons pas chercher dans les poches des entreprises, oui, et sur lesquelles nous travaillons à notre niveau. Et puis après, il y a des actions très concrète, à l'image du pacte relocalisation que vous avez évoqué, que nous avons mis en place dès janvier 2022. Ce pacte relocalisation, il est là pour accompagner la dynamique de la relocalisation industrielle sur notre territoire. Nous avons mobilisé 1,2 milliard d'euros pour accompagner cette dimension, à la fois sur les investissements et sur la formation. Et puis, bien évidemment, nous avons des résultats dessus. Depuis 2022, nous avons créé 17 000 emplois à la faveur du pacte relocalisation.
On va garder ce résultat positif et vous faire réagir aussi, Emmanuel Dutheil, vous qui observez justement ces mouvements, ces activités industrielles. On est sur la radio des territoires. Ce territoire, la région Auvergne-Rhône-Alpes, premier territoire industriel de France, est très intéressant à analyser pour plusieurs faits et dimensions que le président vient d'évoquer. Vous voulez rajouter quelque chose à
cet
égard ?
Non, je trouve qu'effectivement, c'était bien expliqué par le président. Ce qui est aussi intéressant, c'est de trouver les moyens de pouvoir relancer des sites industriels quand ils ferment. Mmh. Et on sait qu'aujourd'hui, c'est une question qui est vachement importante. Pourquoi ? Parce qu'on voit bien que quand il y a une usine qui s'installe quelque part, il y a de plus en plus de potentielle opposition. Alors, il ne faut pas non plus le généraliser, parce qu'il y a plus d'usines qui souffrent sans aucun problème que d'usines qui génèrent d'énormes problèmes. Mais ça aussi, c'est quand même un point important, puisqu'une usine qui ferme, elle est toujours plus compliquée à rouvrir derrière. Donc c'est un point à suivre.
On va continuer à discuter de cette activité industrielle avec notre partenaire Usine Nouvelle. Merci, Monsieur le Président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Fabrice Pagnot. Notre invité, Clément De Villepin, deuxième invité, directeur des ressources humaines du groupe Thales France, va venir nous parler de l'attractivité de la dimension défense. Thales qui annonce 3300 offres d'emploi en France. Et nous sommes aussi, vous le savez, savez, en édition spéciale au plus près de vos territoires, alors que 5 départements restent en vigilance rouge en région du passage de la tempête Niels. D'importants dégâts, 900 000 foyers privés d'électricité, un mort dans les Landes, la Garonne en crue sous surveillance. Nous y sommes dans quelques secondes.
En 2003, la famille Flactif est tuée dans son chalet du Grand Bornand. Dans cette affaire qui a bouleversé la France, c'est la science qui a permis de faire éclater la vérité.
Découvrez les témoignages inédits des experts qui ont fait parler le chalet dans deux épisodes exceptionnels de Crimes et témoignages. La série de podcasts d'ici.
Affaire Flactif. Les experts qui ont fait parler le chalet.
À écouter dès maintenant sur la plateforme Radio France et sur l'appli ici. Ici Mayenne, tous les jours à vos côtés.
Vos infos pratiques en une minute. Je vous rappelle que notre département est actuellement en vigilance jaune pour phénomène de vent et crue. À ce titre, le chemin de halage est totalement inondé et impraticable actuellement sur sa totalité. La rivière continue de monter, donc soyez vigilants. La navigation reste également interdite sur l'ensemble de la rivière. Et puis, à savoir également, la ville de Laval a fermé l'accès aux différentes cales. Les services municipaux suivent l'évolution de la montée des eaux, notamment sur le quai de Boots, pour pouvoir réagir en cas d'inondation et puis prévenir les risques potentiels. Autre info pratique, ce mardi 17 février, l'association Main Tendue 53 vous propose un atelier bien-être avec un soin du visage animé par une socio-esthéticienne. C'est à l'espace Vie et Vien de Cossé-le-Vivien de 10h à 11h30. Allez, rendez-vous dans une heure pour vos prochaines infos pratiques avec Ici Mayenne.
Ici, avec Wendy Bouchard, Ma France.
Ma France prolonge son édition spéciale jusqu'à 14h pour vous informer au plus près des conséquences, des dangers liés à la tempête Niels. Benjamin Mathieu, on va faire un petit point de situation sur d'abord peut-être l'ampleur des coupures d'électricité.
Alors on va commencer, oui, si vous voulez, on peut commencer par ça avec un chiffre impressionnant, 900 000 personnes privées de courant en cette mi-journée. Les principaux concernés sont localisés en Nouvelle-Aquitaine, en Occitanie. Enedis qui met le maximum de moyens humains sur le terrain pour intervenir le plus rapidement possible avec 3000 techniciens qui sont déployés depuis ce matin, 200 groupes électrogènes et puis des hélicoptères qui attendent les autorisations de décollage. On fait un petit point également sur les alertes météo avec toujours 5 départements en vigilance rouge, la Gironde et le Lot-et-Garonne pour les crues qui vont d'ailleurs s'aggraver demain selon Vigicru. Vigilance rouge pour les avalanches en Savoie, le niveau rouge qui est maintenu pour plusieurs stations de ski qui ont décidé même de fermer aujourd'hui comme par exemple l'Alplagne, Chamonix ou Courchevel, et puis vigilance rouge pour les vents violents dans l'Aude et les Pyrénées orientales, des rafales de vent qui ont parfois dépassé les 160 km/h. On a même entendu 180 km/h en début de journal qui ont provoqué la chute d'un arbre sur un camion dans les Landes. Le chauffeur est décédé, puis un blessé grave également dans le Tarn-et-Garonne.
Niveau transport, Benjamin Mathieu, on vous conseille forcément de reporter vos déplacements dans ces secteurs.
Oui, car c'est très compliqué de circuler sur les routes. 1400 poids lourds qui sont bloqués sur l'A9 dans le Gard. Interdiction de circuler pour ces poids lourds de plus de 7,5 tonnes qui concernent aussi l'A75 en direction du sud, ainsi que l'A61 en direction de Narbonne. Et puis côté train, bien le trafic des TER est évidemment particulièrement perturbé dans tout le sud-ouest. De nombreux trains sont supprimés en gare de Bordeaux ou Pau. Aucun train ne circule dans les gares de Bayonne, Biarritz ou Andrail. Le trafic qui est interrompu entre Narbonne et Perpignan. Tous les trains au départ de Paris en direction de Dax, Bayonne, Biarritz ou Andrail qui s'arrêtent à Bordeaux.
On va terminer avec des images qui témoignent de l'intensité de ces vents, de ces rafales retenues.
Pour nos auditeurs qui ne sont pas dans ces régions, pour qu'ils se rendent compte, bien dans le port de Sète, dans l'Hérault, une grue de 550 tonnes qui s'est couchée littéralement sur un cargo céréalier. Alors, il n'y a pas de blessés, mais les opérations de dégagement vont durer plusieurs semaines. Et puis, vous l'avez également entendu tout à l'heure, on était en direct dans les Pyrénées-Orientales. Dans les Pyrénées-Orientales, donc des poteaux de rugby du stade Aimé Giral de Perpignan qui se sont littéralement pliés et arrachés par le vent. Là, évidemment, pas de blessés, mais c'est pour se rendre compte de la force de ces vents qui balayent en ce moment ces régions.
Benjamin Mathieu, merci. Et sur ici.fr, vous retrouvez l'essentiel de ces situations en direct.
Ici, avec Wendy Bouchard, Ma France.
À côté de cette actualité tempétueuse, nous vous dévoilons depuis ce matin, en partenariat avec le magazine L'Usine Nouvelle, la carte des sites industriels ouverts ou fermés en France en 2025. On vous rappelait avec Emmanuel Duteil le bilan mitigé. Pour la deuxième année consécutive, le pays qui ferme davantage d'usines qu'il n'en ouvre, les secteurs de la chimie, de l'automobile, de la métallurgie qui confirment leurs difficultés. Mais d'autres secteurs gardent le vent en poupe. Et nous sommes avec vous, Clément de Villepin, directeur des ressources humaines du groupe Thales France. La défense, on va en parler. C'est à ce point vrai, cette dynamique, monsieur de Villepin, que vous lancez une grande campagne de recrutement avec 3300 nouveaux emplois à pourvoir en France. On parle donc là très clairement de secteur d'avenir.
Absolument, secteur d'avenir. Et puis c'est pas la première année. Hein, oui. Ça fait maintenant plus de 5 ans qu'on recrute au niveau du groupe à peu près 10 000 personnes par an et entre 3 et 4 000 par an en France. Donc c'est une dynamique qui dure. Et c'est probablement une dynamique qui dure parce que nos métiers sont pour 40% d'abord des métiers où on fait de la recherche, où on innove, on développe, et puis quand on trouve, alors on produit. Mmh. Hein, et 20% des effectifs du groupe sont des effectifs dans le monde de l'industrie qui produisent, mais je pense qu'une des clés du succès, c'est toute la partie recherche, innovation et développement que nous faisons en amont. Et dans les 3300 personnes que nous allons recruter en France, il y en a 40% qui feront cette partie amont, recherche, développement, innovation, et puis 20-25% qui vont produire, et qui vont notamment produire pour accélérer la montée en production de nos activités de défense, vous l'avez dit. Le secteur est en développement encore plus fort que d'habitude pour les raisons qu'on connaît, et nous avons l'année dernière multiplié par 2, par 3, par 4 de temps en temps, le nombre de produits dans nos usines, et nous faisons deux choses aussi, c'est que nous reconvertissons un certain nombre de nos usines pour accélérer notre capacité dans la production de défense.
Par exemple,
c'est le cas de l'usine de Pont-Audemer en Normandie, où nous étions sur une usine qui produisait des cartes SIM, qui en produit encore d'ailleurs, et qui va de plus en plus produire des cartes électroniques de haute technologie pour les activités de la défense, et qui deviendra probablement à 100% une usine de défense dans le temps.
Donc on est à cheval vraiment entre des profils militaires et des profils des métiers très civils.
Absolument. Et c'est tout à fait ça. Ce qu'on observe au fait, c'est que le sujet de la défense n'est plus seulement militaire. Et peut-être ce qui est intéressant de noter, c'est que nos usines sont des usines physiques, telles qu'on les a toujours connues, mais on est aussi en train de développer ce qu'on appelle des usines digitales. C'est-à-dire que nous avons des gens dans les usines physiques qui produisent des quantités de produits tous les jours. Dans les usines digitales, c'est des ingénieurs qui font à la fois de la gestion d'interfaces digitaux, c'est-à-dire qu'ils gèrent plusieurs dizaines de millions de transactions informatiques, mais aussi du développement. Il y a quelques années, une carte SIM, on la développait en 3 mois ou en 6 mois, on comptait ça en mois. Aujourd'hui, l'unité, c'est le jour ou l'heure. Ce qui fait que dans une usine digitale, on développe plusieurs fois par jour de nouveaux produits.
C'est intéressant sur la reconversion aussi à la fois de ces métiers et de ces usages industriels. Clément de Villepin, j'aurais juste dire que on peut retrouver également sur notre site internet ici.fr dans quelques instants la carte des régions qui recrutent et qui sont pourvoyeuses d'emplois pour ces offres de chez Thales. 1630 en Île-de-France, 300 en Bretagne, près de 300 en Nouvelle-Aquitaine, mais aussi en Provence-Alpes-Côte d'Azur, 180 en Auvergne-Rhône-Alpes où nous étions. Qui visez-vous spécifiquement avec ces 3300 offres d'emploi? Profil typiquement en France?
Alors, c'est d'abord des profils d'ingénieurs. Hein, je vous disais 40% dans le domaine de la recherche et du développement, 20% dans le domaine de l'industrie. C'est aussi des profils d'opérateurs. Hein. On a des métiers qui sont des métiers de haute technologie comme des soudeurs, comme des personnes qui ont les mains particulièrement agiles pour pouvoir assembler des produits à très haute technologie. Et puis c'est aussi ce qu'on appelle les fonctions support qui sont essentielles au bon mode de fonctionnement, donc les métiers de la finance, du droit, des ressources humaines, c'est finalement 20% à la fin des recrutements qui sont dans ces fonctions support.
Thales, qui est un groupe, un employeur éminemment attractif. Emmanuel Dutheil, ou peut-être réagir aussi à ces secteurs d'avenir que ce groupe finalement balaye et représente, parce qu'on touche à la fois au domaine de l'ingénierie, de l'intelligence artificielle, à certains égards aussi de la cybersécurité. Et ça, c'est vraiment, ce sont des secteurs pour le coup qui sont très attractifs.
Oui, effectivement, vous venez de citer toutes les raisons, mais c'est vrai que Thales, qu'on présente parfois comme un acteur de la défense, est très pointu sur toutes les thématiques. Vous venez de dire la cybersécurité, qui est un point important. Ils ont créé une division IA qui regroupe toutes les activités de l'entreprise justement pour avancer là-dessus. Ça fait vraiment partie de nos champions dans le secteur de la défense, dans le secteur du civil. Typiquement, la plupart des avions décollent parce qu'ils sont équipés de systèmes Thales pour les aider à décoller. Et ça, c'est des points et c'est un vrai talent français. Donc, il y a ça, effectivement. Il y a plein de nouveaux métiers, si on veut regarder le verre à moitié plein, qu'on ne connaît pas du tout encore aujourd'hui, qui seront générés par de l'IA, qui seront même générés par les data centers. C'est typiquement, dans un data center, on dit qu'il n'y a personne, c'est faux. Dans les plus gros data centers, il va falloir des techniciens pour remplacer tel type de câble, un technicien pour remplacer un système énergétique ou ce genre de choses. Donc, ce sera toujours moins de monde qu'une grande usine comme on les a connues. Mais ça va créer une forme d'emploi. Et puis, par exemple, ça soutient également un secteur qu'on n'imagine pas toujours, mais le secteur de la construction. Parce qu'il faut bien les construire, ces data centers. Il y a un chiffre complètement fou. Aux États-Unis, en ce moment, 80% du secteur de la construction est drivé par le secteur des data centers. Donc, ça veut dire qu'il y a un intérêt, au minimum, pour l'écosystème français et pour la croissance française à pouvoir en développer quelques-uns demain.
Vous citiez dans nos territoires, Clément de Villepin, l'usine de Pont-Audemer. Nous étions dans la région Auvergne-Rhône-Alpes il y a quelques instants. Vous avez une présence aussi bien installée sur ce territoire?
Absolument. On est présent dans 10 régions en France. Il y a 40 000 collaborateurs et une cinquantaine de sites industriels. Donc, l'empreinte industrielle de Thales est bien répartie dans toute la France, y compris en Auvergne-Rhône-Alpes.
3300 candidatures offertes, enfin, en tout cas, à pourvoir par le groupe Thales aujourd'hui. Un dernier petit mot peut-être plus général sur la carte que nous mettons en ligne aujourd'hui. Donc, vous avez découvert à la fois bien l'activité et puis les fermetures d'usines ou les placements en liquidation ou les redressements. Que vous inspire-t-elle aussi, Clément de Villepin?
Elle m'inspire deux choses. La première des choses, je le redis, c'est en faisant de la recherche et du développement que ensuite on peut faire de l'industrie. Je crois que c'est une des choses qui fait que Thales est Thales aujourd'hui, c'est que depuis toujours, Thales investit beaucoup dans la recherche, 4 milliards par an.
Oui.
Trois quarts de nos effectifs de recherche sont en France. Et si on est 40 000 en France aujourd'hui, c'est pas pour rien. La deuxième chose, c'est que nous avons la chance, c'est une chance, mais d'avoir des métiers qui sont attractifs. Aujourd'hui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on a énormément de personnes qui viennent nous voir en disant la défense, c'est important pour nos sociétés, sociétés avec un grand S, et on est intéressé. Mais c'est la même chose dans le monde du digital. La cybersécurité a été mentionnée. On est tous en train de se poser la question de savoir si les portables de nos enfants sont protégés et si les données sont bien sécurisées. Thales est le leader mondial de la sécurisation des données et des applications. Et c'est ça aussi qui fait que à la fin, on est attractif. C'est à la fois la recherche amont et puis le sens des métiers qu'on propose.
Merci Clément de Villepin, directeur des ressources humaines du groupe Thales France. Emmanuel Dutheil, notre partenaire, un petit mot de conclusion. En tout cas, on retrouve ces données aussi sur le site de votre magazine.
On les retrouve et peut-être une petite tension au-delà de Thales sur l'emploi, puisque ce qu'on sortait également en partenariat avec vos équipes aujourd'hui, c'est que malgré tout, il y aura moins de recrutement dans le monde de l'industrie au global cette année que l'année dernière, avec une incertitude bien évidemment renforcée à cause de la période politique en grande partie.
Bien sûr. Emmanuel Dutheil, merci. Et puis Géraldine Oudayer qui nous a dressé un petit peu ce panorama. Je rappelle que vous retrouvez sur ici.fr toutes les informations dans le détail.
Toutes les cartes avec les ouvertures d'usines, les fermetures d'usines, les extensions aussi qu'on a voulu faire figurer dans cette carte, parce qu'en effet, c'est aussi important de parler des choses qui vont bien.
Au cœur de vos territoires, merci beaucoup. Il est 13h43 dans Ma France.
Ma France, édition spéciale.
Jusqu'à 14h, nous sommes en direct de la Gironde à l'Aude, des Pyrénées-Orientales au Périgord. La tempête Nils, 900 000 foyers sans électricité à 7h. Un chauffeur de camion mort dans les Landes après la chute d'un arbre sur son véhicule cette nuit. 5 départements maintenus en vigilance rouge. Vous avez, Benjamin Mathieu, une dernière information sur ce sujet à nous communiquer.
Oui,
Benjamin.
Concernant le fleuve, la Garonne, placé en vigilance rouge. Une portion du fleuve qui est située au sud-est de Bordeaux en direction d'Agen fait l'objet d'une alerte maximale maximale de Vigicru, outre les communes de La Réole, de Langon, de Marmande et de Tonneins. Donc toutes ces communes sont concernées et donc vigilance très importante.
Merci Benjamin. 5 départements, vigilance rouge donc pour vent, l'eau des Pyrénées-Orientales et pour les crues et inondations, vous le rappeliez, la Gironde et le Lot-et-Garonne. Nous y sommes dans le Lot-et-Garonne, dans le secteur de Marmande, où les habitants ont découvert l'étendue de cette crue au réveil. L'eau recouvre d'immenses surfaces. Erwan Chassin est à Couture-sur-Garonne, où le fleuve semble encore menacer justement le centre-bourg et sous les yeux des habitants.
Oui, la Garonne ne ressemble plus vraiment à un fleuve, mais à un immense lac aux eaux marrons et tourbillonnantes dont on ne perçoit plus vraiment le contour des berges.
Ça tourne. Allez, on est parti. Et on en a pour une heure aller-retour.
C'est pourtant ces eaux que le maire de la commune, Jean-Michel Moreau, qui effectue son dernier mandat.
Votre dernière crue.
Voilà, c'est pas ma dernière crue. En tant que maire, voilà.
Se prépare à braver en bateau.
On va voir cette personne et on va essayer de voir s'il n'a pas de problème. Mais c'est une personne qui a plus de 90 ans et qui malheureusement a décidé de rester chez elle. Il vaut mieux aller s'assurer de voir quelle est la situation et puis après on verra.
Lui et d'autres font partie de l'association des sauveteurs de Couture, qui ne sont pas très impressionnés par cette crue.
C'est notre vie, donc on l'accepte.
Dans le village, en fait, on est habitué à la colère de la Garonne et ses inconvénients, explique au bord de l'eau Jessica.
Vu qu'on est coupé du monde, on va dire, on n'a pas d'électricité depuis hier soir, 21h même, 22h, ouais.
Et comment vous le vivez ?
Bien, nous on est coulés.
Ce matin, jusqu'à 70 000 foyers ont été privés d'électricité dans le département.
Si, merci Erwan Chassin à Couture-sur-Garonne pour nous informer, comme tous nos reporters mobilisés ont fait ce tour des territoires et des départements les plus concernés par ces dégâts et notamment par la crainte de ces crues d'envergure. Nous sommes du côté de l'Hérault avec notre reporter Claire Moutarde. Claire, vous êtes sur le terrain vous aussi depuis ce matin et vous traversez, on peut le dire, ce département pour ici Hérault, d'est en ouest, de Montpellier jusqu'à Valras-Plage pour constater les dégâts. Faites-nous un petit point de situation de ce que vous voyez et constatez à 13h46, Claire.
Oui, Wendy. Alors en fait, ma destination c'était Valras-Plage, mais je me suis un peu arrêtée avant, hein, tout près de Béziers, parce que le vent s'était légèrement calmé dans la matinée, est reparti de plus belle. Alors j'ai préféré faire une pause plutôt que de faire une embardée. C'est vraiment dangereux. Il faut dire que les rafales atteignent les 120-130 km/h vers Béziers, 152 km/h. Ça a été le record ce matin, le maximum au plan. En fait, le vent est tellement fort qu'à 7, une grue de 550 tonnes est tombé sur un cargo céréalier sur le port commercial. Sur les routes, des branches et même des arbres qui provoquent pas mal de problèmes de circulation, notamment sur l'A9 vers l'Espignon ce matin. Un pin a chuté sur un camion. Le chauffeur est légèrement blessé. En fait, c'est la seule victime de cet épisode à l'heure où je vous parle dans l'Hérault. En revanche, les chutes d'arbres ont provoqué de nombreuses coupures d'électricité. 30 000 foyers sont sans courant. Maintenant, à Bessan, tout près d'Agde où je viens de passer, il a fallu installer un groupe électrogène pour assurer le pompage de l'eau potable. En fait, cela fait un mois et demi qu'il pleut dans l'Hérault. Oui. Les sols sont gorgés d'eau, donc les arbres sont extrêmement fragilisés, notamment les pins, justement, qui ont des racines peu profondes. Et puis, autre problème, le vent qui abîme les toits, qui fait voler les tuiles, évidemment. Et là, il faut faire intervenir les couvreurs absolument le plus rapidement possible, les couvreurs qui sont déjà bien occupés depuis un mois et demi, parce que Météo France annonce une nouvelle fois encore le retour des pluies dès demain matin dans l'Hérault.
Eh oui, Claire Moutarde, merci beaucoup pour ici Hérault, cette nature qui souffre, et on en parlait notamment de ces arrachages d'arbres en cascade, ces arbres déracinés, en particulier dans les Pyrénées-Orientales, avec 3000 techniciens d'Enedis qui sont déployés depuis ce matin sur le terrain pour tenter de raccorder justement les câbles endommagés par ces chutes d'arbres en particulier. 900 000 personnes privées de courant en cette mi-journée. Les principaux foyers sont localisés en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie. 200 groupes électrogènes, des hélicoptères attendent les autorisations de décollage pour aller justement remettre ce courant dans les heures qui viennent. Nous sommes avec le président de Predict Service qui est toujours un très bon observateur de ces situations et nous en fait part avec pédagogie. Bonjour Alex Romagnac.
Oui, bonjour.
Vous revenez une fois de plus avec nous sur la violence de cette tempête Niels. C'est décidément, d'abord Alex Romagnac, un hiver très tempétueux.
Oui, effectivement, un hiver très tempétueux. On se souvient, on avait
parler ensemble jusqu'à la nuit de Noël. On avait eu des grosses inondations liées à des épisodes méditerranéens hivernaux sur le sud de la France. Et puis, depuis le 5 janvier, notre vigie est active H24. Ça a été de la neige, ça a été du vent, ça a été de la tempête, ça a été des fortes pluies, des inondations. Et ça se poursuit avec cette tempête Nils. Effectivement, un hiver très chargé en tempête et en dépression.
Comment vous qualifierez justement ce nouvel épisode arrivé par le littoral aquitain et qui sévit sur un certain nombre de nos départements, cette tempête Nils?
Cette tempête Nils, en fait, elle est complexe à plusieurs niveaux, c'est-à-dire qu'elle a des conséquences sur l'ensemble du territoire national à différents niveaux. Elle continue à apporter de la pluie en Bretagne avec des inondations qui se poursuivent. Mm-hmm. Elle crée un coup de mer très important sur la côte aquitaine avec des coups de la submersion marine, des pluies qui se poursuivent sur tout le sud-ouest avec la crue de la Garonne et les deux départements en vigilance rouge, le coup de vent depuis la côte aquitaine jusqu'à l'Occitanie et de la neige dans le nord des Alpes. Donc on voit que c'est une tempête qui apporte des éléments et des aléas sur des tas de sujets avec, on le voit sur la carte de vigilance, des départements en orange, en rouge, et oui. 5 départements en rouge depuis Bordeaux jusqu'au nord des Alpes en passant par l'Aude et les Pyrénées-Orientales. C'est quelque chose qui est assez inédit en fait en termes de conséquences.
Qu'est-ce qui est le plus préoccupant pour vous à l'heure où nous parlons? Est-ce que d'abord l'essentiel de l'épisode est passé, ou maintenant il faut vraiment observer justement le niveau des cours d'eau et craindre et redouter ces crues en particulier?
Alors, pour le moment, le coup de vent n'est pas terminé. On a, j'ai sous les yeux la carte avec les vitesses de vent. On a une bande de vent très importante qui part en gros du sud des Pyrénées-Orientales, hein, au niveau de Perpignan, qui monte jusqu'en Lozère avec encore des vents à plus de 120-130 km/h. Et comme l'évoquait Claire Moutard tout à l'heure, une situation très particulière parce que des sols saturés. Et donc, ce vent génère beaucoup de chutes. Donc il faut continuer à être prudent, notamment sur les routes, éviter de circuler pour se mettre en danger sur cette zone. Alors d'ici 2 heures, on va dire, d'après ce que nous ont dit nos collègues de Météo France, ce vent va commencer à diminuer, partir en mer, ça ne sera que la Corse qui sera touchée jusqu'à encore en fin d'après-midi. Et donc là, à ce moment-là, il va falloir effectivement revenir à l'urgence des risques de crues et des risques d'inondation qui concernent une grande partie du pays, du sud pays, puisque ces puits tombent sur des sols saturés. Il faut en réagir très rapidement, tout un tas de cours d'eau.
Avec l'inquiétude notamment en Gironde et dans le Lot et Garonne. Vous restez avec nous, Alix Romagnac. Alors qu'en Dordogne, la mairie de Périgueux craint une nouvelle crue historique. Une cellule de crise a été ouverte, c'est ce que nous indique ici Périgord, avec le niveau de l'île pour l'instant en vigilance orange et crue. Mais ça risque d'être beaucoup plus long qu'en avril dernier, avec une des crues plus lente aussi à observer. Nous restons en Dordogne parce qu'une autre crue très importante, c'est celle donc de la Vézère entre Brive et Périgueux. Les aides à domicile, les infirmières ont eu bien du mal à accéder ce matin à la maison de leurs patients, mais elles ont pu compter sur les pompiers du département qui ont sorti les bateaux pour les emmener justement voir leurs patients qui avaient tant besoin d'elles. Thibaut Delmarle.
Le lotissement tout entier a les pieds dans l'eau au bord de la Vézère. Sophie et Stéphanie montent dans un canot gonflable des pompiers.
On n'aurait pas pu intervenir. Ça, c'est aussi bien ma collègue que moi. Moi pour les soins et ma collègue pour le quotidien. On n'aurait pas pu du tout intervenir pour la dame.
Une centaine de mètres sur cette barque, direction la maison d'une dame qui doit suivre un traitement.
C'est une dame qui ne peut pas se déplacer, donc elle est très dépendante de nos interventions.
Une fois chez cette patiente, les pompiers attendent à l'extérieur pendant que Sophie et Stéphanie montent au premier étage de la maison.
Eh bien, j'ai aidé ma collègue aide-soignante pour la toilette et ensuite la mise en place du petit déjeuner. Faites attention, c'est chaud.
Donc les collègues vont passer à midi et ce soir, hein, comme à l'habitude, hein, y a rien qui change. Hein, d'accord ?
Merci. Allez. Alors fait une petite présence et ils savent que tout va bien, il faut les rassurer.
Voilà. Les pompiers les ramènent vite au sec, elles doivent voir d'autres patients toute la journée qui heureusement, eux, ont les pieds au sec pour l'instant.
Voilà pour la Dordogne au cœur de cette édition spéciale autour de cette tempête Nils qui a fait un mort dans les Landes et qui prive d'électricité 900 000 foyers. À l'heure, nous parlons des dégâts matériels impressionnants en Nouvelle-Aquitaine. Je vous renvoie aux photos et aux illustrations que vous trouvez sur ici.fr. terre, des toitures envolées, des voitures très endommagées et surtout des arbres déracinés par centaines, couchés par des rafales de plus de 160 km/h, y compris dans les centres-villes. À Toulouse, au moins 4 arbres sont tombés le long du canal du Midi dans l'agglomération. David Bécher est chef de district Haute-Garonne chez les Voies Navigables de France.
On a identifié 4 gros arbres, soit couchés, un couché donc sur un bateau, là vous le voyez tout de suite, un autre qui menace de s'effondrer sur l'écluse de Castanet, un autre sur l'écluse de l'Espinasse, et le quatrième, on l'a entre Castanet et ici. C'est uniquement des alertes que nous ont donné les riverains ou les navigants. On n'a pas fait le check complet de la situation sur toute la Haute-Garonne. On le fera dès que la tempête sera complètement éloigné et qu'il n'y aura plus de risque pour nos agents. On y va, en fait, dès 16h, on va faire le premier repérage. C'est l'heure à laquelle on nous annonce l'arrêt des grosses rafales. En fait, avant qu'on ne sorte pas en dessous de 80 km/h de rafale. Pour l'instant, on y est. Donc 16h, normalement, on descend en dessous de 60 et là, nos équipes vont sortir jusqu'à la fin de l'après-midi.
Voilà pour la Haute-Garonne, avec ce témoignage au micro d'ici Occitanie, avec cette tempête qui sévit toujours, même si progressivement elle va quitter la terre, la métropole, du moins le continent, pour se diriger ensuite vers la Corse et vers le sud du pays. Alix Roumaniac qui est avec nous, président de Predict Service. Ces images, ces témoignages, nous vous les communiquons alors que c'est un événement climatique d'ampleur exceptionnelle, dit et ressouligne Enedis, qui met ses agents à pied d'œuvre. Je voudrais qu'on parle, Alix Roumaniac, d'une autre vigilance rouge cette fois, mais d'importance, dans les massifs de Savoie et de Haute-Savoie, avec un risque d'avalanche maximale 5 sur 5. Ça, ce n'est pas arrivé depuis 8 ans. Ce qui témoigne encore d'une nature qui se fragilise à coup de vent et de radoucissement, de redoux.
Oui, c'est un peu l'extrémisation des phénomènes dont on parle un peu de manière régulière lorsqu'on parle des règlements climatiques. Et effectivement, on a des chutes de neige extrêmement importantes. Hein. On a parlé de plus d'un mètre de neige qui tombe en quelques jours et qui, du coup, ne permet pas au manteau neigeux de se stabiliser. Et le risque particulier évoqué par nos collègues de Météo France, c'est des méga avalanches qui peuvent descendre très bas dans des vallées. Donc, bien sûr, ce n'est pas un jour à sortir à faire du ski en montagne, mais ce sont des risques d'avalanche qui peuvent impacter des infrastructures jusqu'à très bas dans la vallée. C'est pour ça que, en contact avec les collectivités, on a aussi des opérations de sécurisation des routes ou sur des zones qui ne sont pas dans des zones de ski habituelles. C'est ce risque de méga avalanche et la neige se poursuit et ce n'est qu'à partir de demain, après-demain, qu'on devrait avoir une accalmie, puisque vous l'évoquiez, demain encore un tournant, mais de nouveau dès dimanche, on va avoir des précipitations qui vont se remettre en place avec une dépression en Méditerranée qui vont continuer à apporter des précipitations. Donc il faut encore un peu de la prudence, mais aussi de la patience, parce qu'on n'est pas encore totalement sorti de cette séquence de circulation de dépression.
Merci beaucoup, Alix Roumaniac, président de Predict Service, pour nous éclairer. On reste dans le département de la Savoie en vigilance rouge avalanche. On vous le disait, Mathieu Launoy, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle.
En Maurienne et en Tarentaise, au moins une quinzaine de stations sont partiellement fermées actuellement, ou totalement, c'est le cas de la Plagne. Aujourd'hui, aucune piste, aucune remontée n'est ouverte. Dans la matinée, il y a eu des déclenchements d'avalanches préventifs pour protéger les habitations, les routes et les pistes de ski qui sont ouvertes. Selon Météo France, les intempéries doivent se calmer en début d'après-midi avant de reprendre de plus belle, avec des tempêtes de neige en Savoie et en Haute-Savoie en fin d'après-midi, et des cumuls qui pourront dépasser localement le mètre à certains endroits sur 72 heures. Alors, appel à la prudence aujourd'hui, ne pas sortir en montagne, que ce soit en ski de randonnée ou en raquette, et respecter les consignes des autorités, explique Vanina Nicoli, la préfète de la Savoie.
Ne pas rester notamment aux abords des bâtiments, puisque la coulée peut emporter même à proximité immédiate d'un bâtiment. Donc, il faut vraiment que les personnes qui sont dans la zone à risque soient très vigilantes et surtout respectent les consignes qui leur sont indiquées par les autorités.
Prudence aussi alerte l'ANENA, Association d'études de la neige et des avalanches, qui rappelle qu'une simple pente ou un talus peuvent présenter des risques importants aujourd'hui.
Voilà pour la Savoie. Notez évidemment ces vigilances rouges toujours en cours dans l'Aude, les Pyrénées-Orientales, la Gironde, le Lot et Garonne pour vent et vigilance crue. Situation exceptionnelle là encore. Sur ici.fr, vous retrouvez les conseils de prudence et le côté trafic, évidemment, avec les trains fortement perturbés dans tout le sud-ouest. Tous les trains au départ de Paris en direction de Dax, de Bayonne, de Biarritz ou d'Andaï notamment s'arrêtent à Bordeaux. Notez que le trafic est interrompu entre Narbonne et Perpignan. Merci de votre écoute, chers amis, de votre fidélité. On se retrouve dans quelques secondes pour l'info qui se poursuit à 14h.
Ici, lance sa toute nouvelle radio musicale
100% années 80.
J'ai grandi dans les années 80, alors bien sûr que j'ai rembobiné la bande magnétique de mes cassettes avec un crayon.
Évidemment que j'ai attendu fébrilement toutes les semaines le classement du top 50.
Bien sûr que j'attendais mon morceau préféré à la radio, le doigt posé sur REC.
Et bien sûr que certaines chansons n'ont jamais quitté ma vie.
Toutes vos chansons des années 80, 24h sur 24, à retrouver sur la toute nouvelle radio musicale d'ici, 100% années 80.
Rendez-vous sur l'appli Radio France, sur l'appli ICI et sur ICI.fr. ICI.
ICI.
Une radio, une appli connectée à notre région.
Vous êtes à l'écoute de votre grande radio de proximité, les 14h.